Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Studio Tamani. Nous sommes aujourd'hui à Sikasso, dans la cour de l'hôtel cinquantenaire de Sikasso, pour un grand dialogue délocalisé. Aujourd'hui, on va parler de la fermeture des frontières. Quel impact sur la commune de Sikasso? Depuis le 9 janvier, le Mali est sous les sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, notamment la fermeture des frontières de certains pays membres de cette organisation. La région de Sikasso, qui fait frontière avec certains pays de la sous-région, a-t-elle été impactée par cette mesure? Comment la population arrive-t-elle à s'en sortir? Sikasso peut-elle tenir jusqu'à quand? Studio Tamani pose le débat aujourd'hui à l'hôtel cinquantenaire, je vous le disais tantôt, avec nos invités Abdrahman Sidibé, premier adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso, Nuhum Bokoum de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et Sekouba Koulibaly de la société civile de Sikasso. Sekou Gadjigo va présenter ce débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je voudrais poser cette question à Monsieur le maire Abdrahman Sidibé. Aujourd'hui, quelles sont les frontières fermées ici dans la région de Sikasso?
Ok, merci, monsieur le présentateur. Avant de vous répondre, je voudrais quand même vous remercier pour quand même la tenue de cette activité à Sikasso. C'est vraiment une attention de marque à l'endroit de la commune urbaine de Sikasso. Je ne pourrais que vous en remercier. Les frontières fermées sur Sikasso, on peut dire que c'est, pour le moins, c'est une seule frontière. C'est la frontière de la Côte d'Ivoire qui est fermée aujourd'hui. Sinon, les autres frontières, à savoir le Burkina, cette frontière reste ouverte.
Alors, donc, le Burkina n'est pas concerné par cette mesure de la CEDEAO?
Bon, le Burkina, c'est un pays membre de la CEDEAO. Naturellement, il devrait être concerné par cette mesure. Mais vu la situation actuelle au Burkina, je crois que les autorités burkinabées ont quand même décidé d'ouvrir cette frontière.
Donc la frontière avait été fermée un moment.
Un moment donné, mais avec la situation actuelle, la frontière a été rouverte. Voilà.
Alors, comment la commune de Sikasso vit ces sanctions, notamment cette fermeture de la frontière ivoirienne?
Bon, la commune de Sikasso ressent effectivement la fermeture de cette frontière ivoirienne sur deux situations. Sur la situation mouvement du peuple sikassois vers le pays frère de la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne certains échanges au niveau commerce. Il y a aussi l'impact sur l'économie de la commune, parce qu'il y a des ressources qui sont tirées du fait que les transporteurs traversent la ville de Sikasso et la commune tire des ressources à ce niveau. Et je crois qu'avec la fermeture de la frontière avec, dans un premier temps, avec le Burkina, la Côte d'Ivoire, il y avait des difficultés en ce qui concerne les retombées de ces ressources sur l'économie de la commune urbaine.
Alors, nous allons en parler tout en développant ce thème. Tout d'abord, je voudrais demander à M. Nuhum Bokoum, vous êtes de la délégation régionale de la Chambre du commerce et d'industrie, CECIM. Vous qui êtes commerçant, comment vous subissez l'impact de cette fermeture des frontières?
Merci, Monsieur Gadjigo. Je pense que cette crise, elle est générale depuis plus de 10 ans. En fait, Le Mali connaît une crise multidimensionnelle depuis les années 2012 jusqu'à aujourd'hui. Mais les contextes diffèrent en réalité. Parce que le Mali était buté à un problème sécuritaire et un problème politique depuis les années 2012. Bon, cela a perduré, ça a continué jusque-là. Le pays est quand même buté à ces problèmes d'insécurité qui pèsent lourdement sur la population. À cela s'est ajouté quand même, il faut le reconnaître, la crise politique de 2020 qui a amené le changement de régime. Et ce changement de régime a rimé à un embargo au niveau de la CEDEAO et de l'IMOA qui pèse quand même d'une façon générale, pas sur les commerçants seulement, et sur toute la population malienne en général. Mais ce qui est encore plus, ce qui a accentué la situation aujourd'hui, c'est plutôt la guerre de l'Ukraine, je vais le dire, la guerre de la Russie et l'Ukraine. Bon, cela s'est ajouté à l'embargo que nous subissions avant. Mais pour les gens qui ne comprennent pas, on pense toujours que peut-être c'est l'embargo qui fait que le Mali a des problèmes de carburant, la hausse du prix du carburant, la hausse du blé et tout, tout, tout.
Donc l'embargo n'a pas eu d'effet important sur vos activités ici, la fermeture de la frontière?
Non, tout à fait, les transporteurs. Sikasso, c'est une région à vocation transporteur. Sikasso, en majeure partie, les gens ont embrassé les transports. Donc quand il y a une restriction par rapport à la rentrée de certains produits, forcément, et les camions, et le flux, la migration des camions, ça va diminuer. Et plus ça diminue, plus ça joue sur l'économie de ces gens qui entretiennent quand même des familles, des villages entiers, tout, tout, tout. Donc forcément, les transporteurs en subissent. Et même des petits ménages, les transporteurs en venant, ils amènent des avocats, des bananes plantains, pas mal de petites choses, des cartons de savon. Qui sont aussi revendus par des ménagères qui y vivent avec. Donc c'est vraiment l'impact est visible.
D'accord.
Mais je voudrais seulement dire que tout n'est pas lié à l'embargo, car contrairement D'accord. à ce que les gens croient.
D'accord. Monsieur Koulibaly Segouba, vous êtes de la société civile. Au niveau de la ville de Sikasso, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que depuis que cette frontière ivoirienne a été fermée, est-ce que vous entendez des frustrations, des gens qui se plaignent de la hausse des prix, de certains produits? Comment la population vit cette fermeture de la frontière ivoirienne?
Okay. Monsieur Gadigo, la population sikassoise habituée à ces crises, parce que bien avant même cet embargo, avec le Covid-19, ben on a tout vu. La société civile a tout vu. Donc, nous, on est des habitués des crises, des moments difficiles. Ça, il faut le dire.
Donc, vous vous êtes adapté à cette situation
de
sanctions.
Parce que, en voyant les choses, aujourd'hui, la ville de la région de Sikasso fait frontière avec 3 pays, dont le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et il y a forcément 4 pays qui ne peuvent atteindre le Mali sans passer par Sikasso. Mais au jour d'aujourd'hui, après les sanctions infligées à notre pays, c'est vrai, le Burkina, les autorités, ben, je ne dis pas qu'ils ont laissé ouvert la frontière, mais voir les villages limitrophes, avec les petits tronçons qui sont là, les gens vaguent à leurs
activités.
Donc, on arrive à faire nos petits commerces, ainsi de suite.
Malgré tout, il y a, d'après ce qu'on entend dans la ville de Sikasso, tout le monde n'est pas. On n'a pas l'impression que tout le monde s'est adapté à cette situation. Certains déplorent aujourd'hui le fait que certains produits, les prix de certains produits ont flambé.
Ont flambé.
Alors, vous, de la société civile, qu'est-ce que vous dites? Cette responsabilité est un combat qui
Ok. Vous savez. Comme mon confrère vient de le dire, avec la crise russe-Ukraine, ça a encore enflammé la situation. Mais au vu de nos activités, nous arrivons à assumer ça. Parce que tout pays qui veut aller au développement doit aller dans une sorte de rigueur. Nous, la société civile, je vous dis que nous sommes des habitués de ces activités-là. Parce que nous voulons un changement. Et cet embargo, il a déjà trouvé que nous étions en embargo. Donc ça ne fait que nous apprendre à voir comment prendre cet embargo en main.
D'accord. D'accord. Monsieur le maire, si la population s'adapte, ça c'est une bonne chose, mais est-ce que c'est le cas au niveau de la mairie? Mais avant, vous étiez en train de développer l'impact de cette situation sur le plan économique, sur la commune urbaine.
Ok, je l'ai dit, c'est au niveau de deux axes que nous sentons ces effets. Je crois qu'il y a mon confrère beaucoup m'a eu à toucher le cas des transporteurs. Ces transporteurs aujourd'hui paient des taxes au niveau de la commune, qu'on appelle taxes de traversée. Il y a des taxes de chargement qui sont payées sur certains marchés. S'ils sont dans la difficulté de pouvoir même faire exercer leur activité, même à 80%, 50%, ils ont de la peine aussi à payer certaines taxes qu'ils doivent payer à la commune. Sans compter aussi que il a eu à dire, il y a les effets collatéraux de ce transport sur l'économie de la commune. Parce qu'il y a bon nombre de vendeuses de fruits et de légumes aujourd'hui et qui vivent grâce à ces transporteurs-là. Parce qu'il y a certains produits alimentaires qui viennent de la Côte d'Ivoire. Si vous prenez le ligname, si vous prenez la banane plantain, l'avocat, l'ananas et beaucoup d'autres fruits viennent de la Côte d'Ivoire. Malgré que l'embargo n'a pas concerné les produits alimentaires, mais je crois que le pays frère quand même a mis une certaine pression à ce niveau-là. Et nous avons vu aussi que le fait que les camions ne proviennent pas de ce pays ont impacté vraiment le chiffre d'affaires de ces bonnes dames, qui contribuent aussi à l'éclosion de l'économie de la commune en payant des taxes. Il y a les tickets sur le marché, et ça, c'est des taxes qui sont payées par les commerçants ambulants et les commerçantes qui rôdent dans la commune. Donc, ça a forcément un impact sur la population. Sans compter aussi que il y a parmi ces bonnes dames, il y a beaucoup de familles qui vivent de ces petits commerces-là. Il y a plein de familles à Sikasso. Quand la bonne dame ne vend pas assez au marché, ce n'est pas évident qu'il y ait à manger à la maison à midi ou le soir. Tout ça, c'est des effets qu'on peut imbuter vraiment à l'embargo. Concernant l'économie de la commune, je vois que j'ai eu à parler des traversées, des taxes de chargement. Le flux de camions qui venaient de la Côte d'Ivoire par jour, c'était énorme. Et la commune tire un grand profit à ce niveau. Et sans compter aussi que nous avons des marchés où des camions viennent de la Côte d'Ivoire, du Burkina. Et là aussi, il y a un manque à gagner du point de vue taxe de chargement. Nous avons vu ces recettes diminuer et nous l'avons imputé surtout dans un premier temps, il y avait les fermetures des frontières comme la société civile a eu à l'évoquer pour cause de Covid-19. Ensuite, l'embargo est venu. De crise en crise, vous voyez déjà, ce n'est pas sans effet sur vraiment l'évolution de l'économie de la commune.
D'accord. Monsieur Bokoum, au niveau des commerçants, nous avons l'impression, certes, en tout cas dans la ville ici, quand on a posé la question à certains pensent que la fermeture de la frontière a eu moins d'effet que l'attitude de certains commerçants qui font de manière délibérée flamber les prix. Certains pensent que c'est plutôt certains commerçants qui ont fait exprès de flamber les prix et ce n'est pas la fermeture de la frontière qui est à l'origine de ça. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens?
Bon, je pense que sur cette question, il n'est pas prudent de se prononcer dessus, à coup sûr, pour dire que, par exemple, il y en a qui disent que ils ont du carburant, ils refusent de vendre, ils attendent que ça monte pour pouvoir écouler. Il y en a qui disent qu'il y a ces soucis là. L'embargo a trouvé qu'ils avaient déjà les produits en magasin. Ils ont profité pour rehausser les prix. Moi, à ce niveau, je préfère me taire sur le sujet. Mais tout ce que je sais, forcément, il y a des gens qui peut-être ont tiré profit de cette crise. Mais il faut aussi reconnaître que même sans ces attitudes-là, les prix allaient connaître une flambée. Ce que je t'ai dit, par exemple, la hausse du carburant. Aujourd'hui, c'est un problème majeur que nous vivons. Mais quand tu regardes le carburant, tu prends l'Afrique de l'Ouest tout en entier. Les carburants utilisés en Afrique de l'Ouest viennent de 40 à 60% de la Russie et de l'Ukraine. Beaucoup ne le savent pas. Donc, quand la Russie et l'Ukraine se trouvent en grève, en guerre, forcément, la sortie, l'exportation de ces produits-là va connaître un certain ralentissement. Et d'où la demande va dépasser l'offre. Mm-hmm. Et quand l'offre diminue, forcément, ça va impacter les prix, sans compter que les prix au litre même au niveau mondial a grimpé. Donc forcément, le consommateur va les sentir à la pompe. Et quand la société civile dit qu'ils sont habitués à ça, moi je vais dire non, les gens, on ne s'habitue pas à une certaine souffrance. Maintenant, peut-être on fait un truc sur soi, avant qu'on ne sorte de cette crise. Nous souhaitons quand même sortir de cette crise le plus vite possible, en ayant quand même un accord avec la CEDEAO et l'IMOA, pour qu'il y ait quand même le moindre truc, quoi, parce qu'il y a une crise mondiale qui s'est ajoutée déjà à une crise locale qu'on avait déjà.
Mais ce n'est pas que le carburant, par exemple, le sucre, le lait, l'huile, quand ceci augmente, est-ce que cela aussi s'explique par la fermeture de la frontière?
Oui, ça peut s'expliquer. Tu as parlé du sucre. Le sucre, je ne maîtrise pas trop. Mais par exemple, le blé, le pain aujourd'hui, c'est un problème, la hausse du prix du pain. Le blé, la production mondiale même du blé, est fourni à 50% par la Russie et l'Ukraine. Donc forcément, l'avenir de ces produits-là va diminuer. Et quand ça diminue, ça va impacter les prix. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la hausse du prix et du prix de la farine. L'engrais, aujourd'hui, ça suscite beaucoup de problèmes. On est en train d'en parler, c'est cher, on n'en trouve pas. L'engrais, c'est pareil. Tous ces produits-là, qui sont aujourd'hui importants pour notre économie, viennent de ces deux pays qui sont en guerre aujourd'hui.
D'accord. Monsieur Koulibaly Seguba, vous qui êtes de la société civile, est-ce que vous comprenez aujourd'hui la flambée des prix de certains produits aujourd'hui?
Effectivement, comme vous venez de me poser la question.
Ça s'explique par la fermeture de la frontière?
Parce que je vous ai dit, la fermeture de la frontière, les frontières ont engrainé beaucoup de choses. Mais il y a à le dire que nous sommes habitués à ça parce que ce n'est pas maintenant que les frontières ont été fermées. Il y a un certain temps que nous sommes dans cette fermeture des frontières. C'est vrai, nous avons des problèmes aujourd'hui parce que personne ne se suffit. Parce que quand tu prends le panier mélangeur, il n'y a pas d'argent pour faire suffisamment son choix sur le marché. C'est un problème. Au jour d'aujourd'hui, comme il a dit, l'engrais, le sac d'engrais est parti jusqu'à 35 000. C'est un problème. Hier seulement, moi, j'ai essayé de passer par le marché pour demander le prix. On me dit qu'un sac, 50 kilos d'engrais, coûte 35 000.
Pourtant, vous dites que vous êtes habitué.
Oui. Si je dis qu'on est habitué, ce n'est pas parce que nous pouvons supporter le coût. Non. Mais quelque chose dont tu ne sais pas quand est-ce que ça va finir, il y a de quoi vraiment attacher sa ceinture.
Oui, le maire vient de relever certains aspects aujourd'hui quand des gens qui menaient des activités ne parviennent plus à le faire à cause de cette situation. Est-ce que cela ne vous inquiète pas, ça ne vous préoccupe pas?
Ça me préoccupe parce que la semaine dernière seulement, j'ai été à la frontière. J'ai vu même les usagers qui sont soumis à des tracasseries dues à cette fermeture de frontière. Ça me fait mal. Ça me fait mal.
Alors, monsieur le maire, oui, rapidement, monsieur Boko.
Rapidement, là, je veux dire, il ne faut pas aussi négliger le côté sécuritaire par rapport à la flambée des prix. Les gens ont tendance à négliger cet aspect. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Sissikasso.
Nous payons les sacs de 1000 aujourd'hui à 40 000 francs. Ça, ce n'est jamais arrivé de toute l'existence du Mali. Mais c'est dû à quoi? Il faut chercher l'origine. Aujourd'hui, les zones de production du mil, en excellence, c'est le nord. La zone des Mopti, tout, c'est sur ces gens-là, le pays Dogon. C'est eux qui produisent les mil en quantité. Donc aujourd'hui, ces zones-là connaissent une insécurité qui ne dit pas son nom. Donc les gens ne peuvent plus aller au champ pour cultiver à cause de l'insécurité. Donc d'où les mil qui se fait de plus en plus rare. Et du coup, les prix ont flambé. Sinon, les mil ne nous viennent pas d'ailleurs. Ça, c'est au Mali, ici.
D'accord.
Aujourd'hui, nous payons à 40 000. Et même l'huile dont vous venez de parler, l'huile là, à 80%, 60% de l'huile que nous avons, à part les usines qui font l'huile locale là, l'huile nous vient de l'Algérie, de la Mauritanie. Ces trafics-là, aujourd'hui, ne sont pas faciles. Ce qui explique que les bidons de 5 litres qu'on payait à 3500, 3750, et aujourd'hui, à 8 000. Donc le côté sécuritaire aussi est très important par rapport à jouer beaucoup et par rapport à la flambée des prix. Et même la fermeture des frontières, il y a des produits qui sont interdits. Peut-être les camions, les gens se débrouillent par magouille pour les faire rentrer, pour m'exprimer ainsi. Donc quand tu fais la magouille pour rentrer un produit, donc ça veut dire que si le produit n'est pas rentré par la normale. Donc du coup, tu es obligé d'ajouter au prix parce que tu as fait beaucoup plus pour pouvoir l'amener. Et à la consommation.
Mm-hmm. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut savoir avec des chiffres à l'appui quelle a été l'incidence de cette situation sur les recettes de la mairie?
Bon, avant de revenir à la réponse de cette question, je voudrais quand même donner une précision par rapport à la flambée des prix. Mm-hmm. Je crois qu'il y a beaucoup eu à parler de l'augmentation du prix du carburant. Mm-hmm. Et ça a une incidence aussi sur le coût du transport. Plus le transport augmente, ça a une incidence aussi sur vraiment la vente des marchandises. Les prix vont augmenter. Et sans compter aussi qu'avec l'embargo, il y a beaucoup de nos commerçants étaient obligés de changer la destination de leurs marchandises. Par exemple, les marchandises qui étaient destinées par rapport au port de la Côte d'Ivoire, par peur, ils étaient obligés d'échanger des destinations. Et ça a pris le temps qu'il fallait. Et du coup, l'offre au niveau de la demande a été vraiment supérieure à l'offre au niveau du marché, ce qui a aussi engendré l'augmentation des prix au niveau de certains denrées sur le marché. Et par rapport à l'incidence en termes de chiffres, avant l'embargo, je ne pourrais pas dire que la COVID-19 n'a pas eu d'impact à ce niveau-là, mais avec l'embargo, le flux des camions de la Côte d'Ivoire vers le Mali en traversant Sigasso a diminué. Puisqu'il y a beaucoup de produits qui sont concernés par l'embargo, à part les produits pharmaceutiques, les denrées alimentaires, mais tous les autres produits, que ce soit le ciment, le fer, et beaucoup d'autres marchandises ont été impactées par l'embargo. Du coup, le flux des camions sur ce réseau a diminué. De 14 millions de droits de traversée par mois, on s'est retrouvé un moment donné à 9 millions, 10 millions par mois. Mais heureusement, dans ces derniers temps, avec l'ouverture de la frontière avec le Burkina, il y a des camions qui contournent la Côte d'Ivoire. Par exemple, quand tu prends les miniers, ils viennent par le Burkina, ils rentrent par Sikasso. Tous les miniers qui passaient par le port de la Côte d'Ivoire ont vraiment changé la destination sur le Burkina. Et c'est ça qui nous a permis quand même de rehausser un peu le niveau des recettes en ce qui concerne les droits de traversée. En ce qui concerne les taxes de chargement au niveau de nos marchés, 1 million par mois, on s'est retrouvé à 400-500 000 francs par mois. Dû au fait qu'il y a beaucoup de camions qui ne venaient pas. Parce que la plupart des camions qui viennent, c'est les camions sénégalais. Dans le petit marché de Médine, à partir de jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à lundi, quand tu te rends au petit marché de Médine, tu verras que des camions venaient du Sénégal. Et là aussi, nous avons connu une diminution à ce niveau-là. Et quand tu prends les tickets sur marché, c'est des tickets qui sont placés auprès de nos bonnes dames.
Et je crois qu'il y a des marchands ambulants qui ont carrément quitté le marché, faute de marchandises, parce que leur domaine de commerce, c'est les produits venant de la Côte d'Ivoire, comme j'ai eu à le citer, l'avocat, la banane plantain, des petits trucs. Et ça ne vient plus. Ça ne vient plus parce qu'il a trouvé auprès des transporteurs. Quelqu'un qui charge son camion, il amène quelques marchandises pour les bonnes dames, et elles aussi, elles vendent pour quand même pouvoir subvenir à leurs besoins. Et là, on a senti aussi une diminution à ce niveau. Sans compter aussi, il y a les transporteurs qui payent des taxes au niveau de l'impôt. Et la commune, les patentes, la commune a des retombées au niveau des patentes. Les patentes de recouvrer au niveau de la commune, c'est pour la commune pratiquement.
D'accord.
Mais à ce niveau aussi, avec les difficultés au niveau du service des impôts, dans le cadre du recouvrement, nous sommes aussi dans des difficultés à ce niveau-là.
D'accord. Je voudrais juste signaler qu'on a essayé d'avoir les transporteurs parmi nous ici, mais ils ont décliné notre invitation. Monsieur Bokoum, vous, en tant que commerçant, est-ce que quelque part cette fermeture de la frontière ivoirienne ne devait pas baisser le prix de certains produits locaux, des produits qui viennent de la région même? Mais on a l'impression que ce n'est pas le cas. Par exemple, on dit que l'igname est devenu beaucoup plus cher, la pomme de terre, alors que c'est des produits qui viennent de la région de Sikasso.
Non, je pense qu'à ce niveau, vous n'avez pas la bonne information. Mm-hmm. Parce que l'igname qui est consommé à Sikasso, l'igname qui est produit à Sikasso, ne suffit même pas, ça fait même pas 10% de la consommation de la population. Tout nous vient de la Côte d'Ivoire, presque. Maintenant, quand tu parles de la pomme de terre, la hausse du prix de la pomme de terre peut s'expliquer par la hausse des engrais. Parce que la pomme de terre, non seulement la semence a coûté cher, et puis les intrants. Donc tu ne peux pas payer un sac d'engrais à 30 000 francs à produire ta pomme de terre et venir vendre le prix à un bas prix. Et même la pomme de terre importée qui est consommée au Mali aujourd'hui, c'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, tout ça là, c'est la venue de tous ces produits-là est devenue un peu lent. Parce qu'au fait, l'arrivée des produits devient de plus en plus lent, ce qui explique vraiment la hausse de ces prix-là par rapport à la demande de la population.
Alors, les autorités nationales avaient pris des mesures, surtout à la veille du mois du Ramadan, pour stabiliser certains prix, les prix de certains produits. Est-ce que cette mesure a pu être suivie ici à Sikasso?
Oui, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Le gouvernement a mis beaucoup de moyens pour pouvoir stabiliser les prix. Ça ne reste que pour l'apaisement du climat social et le mois béni du Ramadan, où les gens vont voir leurs dépenses multipliées. Mais qu'à cela ne tienne, c'était quand même un peu haut. Ça, c'est dû même aux conditions dans lesquelles les gens amènent les produits. Tu as beau demander aux commerçants de diminuer, ils le font dans la mesure du possible. Il ne faut pas quand même acheter un produit et venir le vendre à perte. Et ce qui fait que, par exemple, le sucre, finalement, et pendant le mois de carême, il était à 28 000. Mais un peu avant que le gouvernement n'intervienne, c'était à 31 000. Moi-même, j'ai payé le sucre à 31 000 francs.
D'accord.
Donc, mais pendant le mois de carême, c'était vendu quand même à 28 000. C'est vrai, c'est cher par rapport au prix habituel, mais le gouvernement a fait ce qu'il pouvait faire.
D'accord. Ouais. Monsieur Koulibaly Seguba, sur le plan social, quelles ont été les conséquences de cette fermeture de frontières sur la commune de Sikasso?
Effectivement, bon, vraiment, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Ça nous a coûté très, très cher.
Sur le plan social?
Sur le plan social, ça nous a coûté très cher. Mais il faudrait que vous sachiez que ce n'est pas seulement la fermeture des frontières. Comme il vient de dire, le problème de l'Ukraine, c'est un problème international.
Mais moi, je veux comprendre. Est-ce que c'est les effets consécutifs à la crise ukrainienne qui sont beaucoup plus importants que les effets de la fermeture de la frontière? Je voudrais savoir, puisque vous insistez beaucoup sur la crise russo-ukrainienne.
Parce que quand les choses, tout ce que nous gagnons ici,
le micro,
qui vient de l'extérieur, mais quand ça ne vient pas et que c'est cher à l'extérieur, vous pensez que ça serait moins cher ici?
Si c'est cher à l'extérieur, à l'intérieur c'est cher encore, c'est plus cher que c'est à l'extérieur. Donc il faudrait que nous, société civile, nous sensibilisons les gens à tenir le coup et à essayer de diminuer, à essayer de d'équilibrer leurs dépenses pour pouvoir survivre. Sinon ce problème, ce n'est pas un problème seulement pour le, même pour le Mali qui est aujourd'hui sous l'embargo.
Alors jusqu'à quand la ville de Sikasso, la commune de Sikasso pourrait tenir, la population pourrait tenir là, dans cette situation.
Point d'interrogation.
Puisque vous les appelez à tenir oui, encore.
Parce qu'on n'a pas le choix. Mm-hmm. On n'a pas le choix. Donc on est fait que c'est moraliser, mm-hmm. c'est remonter le moral. Mm-hmm. Voilà. Sinon, on ne peut pas déterminer le temps.
D'accord. Monsieur le maire, je reviens vers vous. On sait que l'hivernage approche à grands pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut craindre que cette situation impacte la campagne agricole aussi, si toutefois il n'y a pas de solution d'ici là?
Bon, moi, je trouve déjà que la campagne agricole est déjà impactée. C'est dans la mesure où les prix des intrants essaient de s'augmenter du jour en jour. Le sac d'engrais qui était vendu à 16 000, 15 000 et même 20 000 se retrouve aujourd'hui à 35 000, 37 000, 540 000 francs selon les engrais. Donc je trouve déjà que tant qu'on ne revoit pas le prix des intrants, l'hivernage est déjà impacté.
Mais est-ce que l'augmentation du prix des intrants aussi est due à cette situation de sanction?
Non, ça n'a rien à voir avec la sanction. C'est dû à la crise actuelle. Et quand vous prenez certains types d'engrais qui sont les grands producteurs, c'est l'Ukraine. Aujourd'hui, la matière première provient de ces pays-là. D'ores et déjà, il y a un problème de production là-bas. Mmh. Et même déjà, avec le coût du transport, l'engrais ne cessera d'augmenter parce que la demande va être supérieure à l'offre. Ça, c'est clair. Mmh. C'est ce qui engendre la flambée des prix. Donc maintenant, l'État a dû faire des subventions. L'État a fait ce qu'il pouvait. Mais les subventions... ne concerne pas toutes les spéculations. En termes agricoles, il y a eu la subvention au niveau du coton et la subvention au niveau de la production céréalière n'est pas aussi très élevée. Donc ça veut dire que le gap doit être recherché par les paysans eux-mêmes. Avec cette charité, c'est pas évident qu'on puisse vraiment atteindre les objectifs qui nous sont fixés.
D'accord. Mais est-ce qu'avec cette situation, vous avez fait des facilités aux commerçants ou aux transporteurs, puisqu'ils sont confrontés à cette fermeture des frontières? Est-ce que vous avez, par exemple, diminué certaines taxes ou bien les supprimer complètement?
Bon, les taxes, on ne peut pas les supprimer parce que c'est des taxes qui sont instituées par une loi. Mm-hmm. Et c'est des taxes aussi qui sont instituées par des délibérations au niveau de la commune.
Micro. Mm-hmm.
On ne peut pas quand même les ignorer. Mais nous récupérons ces taxes avec la manière, tout en tenant compte de la situation actuelle. Ça veut dire quoi? La pression qu'on a l'habitude de monter sur les contribuables va largement diminuer. Et nous les suivons au rythme actuel.
D'accord. Monsieur Bokoum, est-ce que ces facilités-là, vous les ressentez sur vos activités? Est-ce que ça vous facilite un peu le travail, ce qu'il vient de dire?
Oui, je pense qu'à tous les niveaux de l'administration, mm-hmm. et même les autorités locales, à cette période de crise, je pense que les choses sont plus souples. Mm-hmm. Parce que tout le monde sait que l'autre qui me doit a des difficultés. Je pense qu'il y a cet aspect, mais c'est insignifiant. Surtout le volet dont vous venez de parler, les taxes de chargement, les trucs. Souvent, c'est des trucs instaurés par les mêmes transporteurs. Ils l'acceptent au fait que ça les dérange même pas. Au fait, c'est des petits sous. Mais seulement, c'est le nombre qui est élevé, ce qui fait que la mairie gagne un peu là-dedans. Sinon, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas des sommes substantielles, 1000 francs, 2000 francs, 500, c'est des petites choses au fait. Ce n'est pas des taxes énormes. Mm-hmm. Mais que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau des structures étatiques, mm-hmm. quand il y a une certaine quand même indulgence envers les gens, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas responsables de cette crise que tout le monde traverse. Mm-hmm. Moi, ce que je peux seulement ajouter à ça, c'est vraiment d'interpeller les autorités actuelles à utiliser de tous leurs trucs, tous leurs savoir-faire pour que nous puissions quand même avoir un compromis avec la CEDEAO et l'IMOA. Mm-hmm. Au moins ça va diminuer un peu les choses. Ouais, ouais.
Alors, c'est Gouba Koulibaly, au niveau de la société civile, je le disais tantôt, l'hivernage c'est très bientôt. On sait que la situation n'est pas aussi facile. Vous, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui aux autorités, que ce soit au niveau communal, au niveau régional, pour que on puisse passer l'hivernage dans une situation beaucoup plus facile que celle qu'on connaît aujourd'hui?
Okay. Bon, si vous me posez cette question, je dirais qu'encore que ce que le gouvernement en a fait, c'est beaucoup. Et on leur demande encore de faire encore un peu d'effort, voir comment les intrants agricoles peuvent être au moins au prix pour que les paysans puissent avoir les intrants à bas prix. Mmh. Quand même qu'on sache que le gouvernement fera son mieux, mais qu'on tient compte que le problème qu'on a aujourd'hui, ce n'est ni le gouvernement, ni nous, ni eux, c'est un problème mondial. Mmh. C'est ce que je peux vous dire pour le moment.
D'accord, oui, rapidement, beaucoup.
C'est-à-dire ce que je voudrais dire, parce qu'il ne faut pas... Parce que ce que la société civile vient de dire tout de suite, le gouvernement aussi a des charges. Le gouvernement a des charges. Il faut que les ministères fonctionnent, il faut que les services de l'État fonctionnent, il faut que les salaires soient virés. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut que les gens payent leurs taxes, il faut que l'État aussi ait de l'argent. Maintenant, dans une période d'embargo, où il n'y a que les produits alimentaires qui rentrent, et les médicaments, et ça, c'est des produits de nature à ne pas être trop taxés, parce que c'est les denrées de première nécessité. Donc, quand encore ces produits qui sont subventionnés, il faut encore l'État, si l'État doit céder tout pour que ça puisse marcher au niveau des champs, tu vas voir que l'État va aussi aller en faillite. Aujourd'hui, tu vas prendre le ciment que nous consommons au Mali ici. 60% du ciment consommé au Mali nous vient de Dakar. Mais par rapport à l'embargo, le ciment ne rentre pas. Et quand le ciment rentre, ceux qui amènent le ciment payent quand même des taxes. Donc, si le ciment rentre, peut-être on peut sursoir à une taxe quelque part parce qu'on a libéré de l'autre côté les autres produits qui sont interdits aujourd'hui pour que l'État puisse avoir de l'argent. Aujourd'hui, les ciments qu'on paye à 4500, à 6000 aujourd'hui, 6250. Donc, je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom. Il faut que nous ayons une entente avec la CEDEAO et l'IMOA. Ça, c'est le premier pas que les autorités doivent franchir. Il faut donc tout faire pour qu'on ait un terrain d'entente.
Donc vous pensez que c'est la seule solution, la seule porte de sortie?
Moi, je pense que s'il n'y a pas une entente à ce niveau, je ne sais pas, on va se diriger vers quoi. Ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi.
Voilà. Alors, monsieur le maire, on va vous demander quelle solution vous préconisez pour qu'on puisse sortir de cette situation, mais... Tout d'abord, on a vu que les frontières sont fermées, la frontière ivoirienne est fermée, mais malgré tout, les gens parviennent à rentrer et sortir. Qu'est-ce que cela peut avoir comme impact aussi sur les revenus, les recettes de la mairie? C'est un manque à gagner aussi, important.
Bon, je crois que l'impact de l'embargo sur les revenus de la commune, j'ai eu à le souligner. Je pourrais dire que c'est important parce que nous avons aussi souci du bien-être des populations de la commune. Si la population souffre, nous, en tant qu'autorité communale, nous ne pouvons pas vraiment rester en marge de cette souffrance-là.
Donc, vous pensez que malgré que la frontière soit fermée, si certains parviennent à aller vendre les produits en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème à ça?
Il n'y a pas de problème à ça. Même à un moment donné, l'État avait pris des dispositions pour que le bétail ne puisse pas être transité vers, exporté vers la Côte d'Ivoire. Mais malgré tout, avec la porosité de nos frontières, nos commerçants de bétail parvenaient quand même à faire des ventes.
Et je trouve ça aussi normal parce que n'eût été ce plan B, comment dirais-je, la crise allait impacter aussi ce secteur-là. Parce que quand vous prenez ces commerçants de bétail, ils ont des charges. Auxquelles charges il faut faire face au quotidien. Et s'ils ne se mettaient pas vraiment à contourner les frontières pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ça allait être plus grave encore. Et la grogne sociale allait prendre aussi de l'envol. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a en charge 10 bouches à nourrir, tu trouveras qu'il se retrouve avec 15 personnes, 20 personnes, dues à la crise. Parce que les 10 autres personnes qui s'ajoutent, les 5 autres personnes qui s'ajoutent, ça veut dire que c'est les gens qui ont carrément perdu leur activité suite à cet embargo-là. Donc, nous, en tant qu'autorité communale, on pouvait pas rester, nous ne pouvons pas rester en marge vraiment de cette situation. Je crois que beaucoup, ce qu'il vient de dire, il est temps assez qu'on sorte de là.
Même si c'est vrai que ce sont des pertes pour vous, voilà, puisque l'argent n'entre pas dans vos caisses directement.
Oui.
Ok. Une dernière question à vous, monsieur le maire, avant de clore ce débat. Aujourd'hui, on voit que la situation reste toujours... voilà, on peut dire qu'on est toujours au point mort, même si on apprend que les discussions se poursuivent entre les autorités et la CEDEAO. Mais en attendant, la frontière ivoirienne reste fermée, chose qui impacte l'économie de la commune. Vous, qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui pour qu'on puisse sortir de cette situation?
Bon, je crois qu'il appartient aux autorités au plus haut niveau de prendre les dispositions qu'il faut pour qu'on puisse sortir de cette situation rapidement. Parce que là, je l'ai eu à le souligner lors d'un de mes reportages, j'ai dit qu'aucun pays ne peut vivre dans l'isolement. Ce n'est pas possible. Dans la mesure où nous sommes en train d'aller vers une mondialisation, et le développement en vase clos ne tient plus. Il faut avoir des ouvertures sur les voisins. Aucun pays aujourd'hui, aucune nation ne peut vivre dans l'isolement. Donc il est temps à ce que nos autorités puissent vraiment prendre cette situation à part le corps pour qu'on sorte vite vraiment de là et que la population
le micro
et que la population puisse avoir aussi la paix. Parce que vivre dans la précarité, c'est aussi une instabilité.
D'accord. Vivre dans la précarité, c'est aussi une instabilité. Trouver les moyens pour sortir de cette situation. On va clore ce grand dialogue sur ça. Nous parlons aujourd'hui de la fermeture des frontières. Quel impact sur la commune de Sikasso? Nous recevions sur ce plateau Abdrahmane Sidibé, premier adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso. Monsieur Nuhum Bokoum de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et Sekouba Koulibaly de la société civile de Sikasso. Ce grand dialogue a été réalisé depuis l'hôtel cinquantenaire de Sikasso. À l'image et au son, il y avait Mamadou Ouattara. Sikou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous. Et à la prochaine pour un autre numéro du Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Mouni.
Chenne.